Scarpe Ciné, séquence 12.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, Scarpe Ciné continue même l'été. Et justement, durant cette période estivale, Carole vous invite à découvrir des classiques du cinéma. Initié par Plan Séquence, mon cinéma d'été est un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'été culturel, manifestation à l'initiative du ministère de la Culture et qui bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Au programme projection des films autour de la Warner à l'occasion de son centenaire, en version originale sous-titrée français, accompagnée de présentations, séance ciné senior, jeune public, avant-première, atelier, Eric Mio, Nadia Paschetto, Lucie Hureros, de l'association Plan Séquence, Guillaume Méral et Benjamin de Neuf Églises de Popcorn Reborn lors de la conférence de presse enregistrée par Carole.
Scarpe Ciné, dans les coulisses des tournages de films et séries au coin de votre rue.
Mon cinéma d'été, c'est un projet qui s'inscrit dans l'opération Un été culturel, qui est donc initiée au niveau national et portée ici en région par la DRAC Hauts-de-France. C'est né en 2020, pandémie, et l'idée c'était d'offrir des activités culturelles pédagogiques pendant l'été à des publics qui, pour moult raisons, ne se déplacent pas ou ne partent pas en congé. L'année dernière, nous avons été sollicités par la DRAC pour monter un projet. Donc évidemment, dans notre domaine à nous, si vous voulez, vous avez peut-être déjà entendu parler des plaines d'été. C'est plus pour le spectacle vivant, pour tout ce qui se passe au niveau du théâtre, de la danse, des choses qui se font dans la rue. Et donc là, la DRAC a souhaité aussi interroger les acteurs cinéma de la région. Et donc l'année dernière, de façon assez tardive, ce qui fait qu'on a développé le projet très rapidement, sans avoir de temps de mettre en place des projets comme on le fait cette année. Et on a créé l'opération qu'on a appelée, nous, Mon cinéma d'été. On a souhaité donc viser deux publics, deux types de publics. Le public jeune, des jeunes qui vont pas partir en vacances, qui vont peut-être même pas aller jusqu'au bord de la mer cet été. Et un public senior qu'on a un peu tendance à oublier, qui en maison de retraite, en EHPAD, qui, pour des raisons de mobilité aussi, ne pourra pas partir en vacances. Voilà, donc ça, c'est nos cibles à nous, ici, sur notre territoire. Et l'idée aussi, c'était, qui est aussi dans le projet initial d'un été culturel, c'est d'aller aussi sur des territoires comme le territoire rural, ce qui évidemment explique la présence du Régency à Saint-Paul-sur-Ternoise, qui est un partenaire de très longues années avec lequel on développe toute l'année des projets. Donc c'était complètement logique pour nous de travailler avec le Régency. On travaille ici avec Mégarama, c'est normal aussi, c'est notre partenaire historique arrageois. Et on va aller travailler avec, ça c'est Lucie qui pourra peu plus en parler, avec des centres de loisirs, des centres sociaux, là où on place les jeunes qui ne peuvent pas partir en congé, et du coup on va leur proposer des projections, des ateliers. L'idée c'était d'allier le ludique, le pédagogique, la découverte, voilà. Et ça va se passer donc l'été culturel, c'est de juin à septembre. Nous, cette année, on se place effectivement entre juin et septembre, puisque on va proposer tout au long de l'été et à la rentrée des actions précises.
Eh bien, oui, bah, comme l'a dit Eric, nous, ça, c'est donc déjà la quatrième édition, en fait, de notre programmation estivale qu'on a appelée le Popcorn Ribbon Summer Festival. Effectivement, cette année, c'était les 100 ans de la Warner. Donc, on a trouvé, en fait, l'opportunité, en fait, de nous associer encore plus étroitement avec la programmation de plan séquence pour une initiative commune. Et aussi de trouver les films dans le catalogue Warner qui nous touchent, en fait, qui s'inscrivent parfaitement dans notre ligne éditoriale et qui nous permettent également, en plus, d'élargir un peu plus nos horizons. Donc, on s'est fait plaisir, je pense qu'on peut le dire quand même, je pense qu'on peut le dire. On en a fait une sélection de 4 films, du coup, qui s'étendront du mois de juillet à la première semaine d'août. Donc, nous aurons Matrix des frères Wachowski, des sœurs Wachowski, qui à l'époque, en fait, étaient encore des frères Wachowski. C'était l'un des...
Le premier, oui.
C'était un film important parce que c'est quand même le film qui a précipité Hollywood dans les années 2000. Je pense qu'on peut parler de Game Changer à ce niveau-là. Nous aurons donc là notre soirée commune avec Plan Séquence, où Eric s'est engagé à mettre le costume de Superman pour le jour J.
Pas tout seul.
Bon, faire, ouais.
C'est aussi musclé que Christopher
Reeve. On le fera tous ensemble. Donc on aura le Superman de Richard Donner. C'est un film pour nous est important parce que c'est vraiment un film qui fait le pont en fait entre deux époques. C'est le film en fait qui fait entrer la culture pop, le comic book dans les salles de grand écran aux États-Unis, qui lui donne une légitimité culturelle et cinématographique, justement en puisant dans l'imaginaire de l'âge d'or hollywoodien, dans le western, dans les films de John Ford, justement pour montrer que finalement que en fait, il y a un pont naturel qui se trace entre des sensibilités culturelles différentes, l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les comic books, ce qui à l'époque n'était pas évident, et qui réussit à synthétiser tout ça, en fait, sur grand écran. On a pris aussi Le Fugitif, d'Andrew Davis, avec Harrison Ford, parce que c'était un pur plaisir de cinéma des années 90. C'était un film qui a été un gros succès, c'est aussi un film d'acteur, ce qui est quand même quelque chose qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui dans des productions de cette envergure. Et que c'était aussi un film d'artisan, ce qui nous semble important en fait de valoriser valoriser aujourd'hui. Et enfin, l'inspecteur Harry, parce qu'on ne pouvait décemment pas faire une programmation grandeur sans Clint Eastwood et sans l'inspecteur Harry.
Dessiné sans volonté, c'est que finalement Matrix et Fugitif étaient deux personnes qui fuyaient, d'un cosmos qui les poursuit, que ce soit un cosmos numérique dans la Matrice ou policier dans Fugitif. Et après deux héros emblématiques de la culture américaine que sont l'inspecteur Harry, Callahan et le Superman, Kal-El, Richard Donner.
Clint Eastwood avait été envisagé pour le Superman
en plus.
Ça aurait été la meilleure colombe.
Son of Krypton aurait été un peu plus violent, je pense. Mais c'était intéressant de prendre deux grands héros. Et, bon, en fait, c'est deux films qui finalement sont porteurs, on pourrait croire, de grands clichés, de stéréotypes masculins. Et finalement, vont apporter énormément de nuances sur leur propre héros. Si vous avez la chance de revoir l'inspecteur Harry sur grand écran, la fin est extrêmement mélancolique. Il n'y a rien de joyeux dans tout ça.
Non, clairement.
Les suites n'apportent rien de joyeux non plus.
Non, c'est clair.
Par le dernier avec Jim Carrey qui est une catastrophe. Et le Superman, c'est exactement la même chose, quoi. C'est une grande... Guillaume disait que c'était un pont avec les cultures du passé et les cultures du présent d'époque, mais c'est aussi un des plus grands films romantiques et romanesques, en fait, qui ait jamais été fait, quoi.
Voilà, puis bon, quand on parle d'icône masculine, c'est vrai, mais en même temps, la masculinité dans ce film-là n'a cessé de se déconstruire, en fait. Donc, on n'a pas malheureusement attendu les années 2010 pour le faire.
Et puis, on se rend compte que Superman n'existerait pas sans Lois Lane, ouais. dans le film, donc, elle est essentielle à sa construction.
Parce que l'idée du patrimoine en salle, c'est une idée française. Enfin, c'est pas qu'une idée, en fait, c'est un résultat.
Oui.
C'est-à-dire, s'il y a 3 films qui sortent par semaine, c'est parce qu'il y a des entrées. Et je pense que la Warner, ça va générer énormément d'entrées. Donc il y a une appétence du public français pour aller revoir des films, parce qu'on est cinéphile, et même globalement, même des gens qui vont pas, enfin qui sont pas des cinéphiles pointus, mais globalement le public français est quand même cinéphile. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a retrouvé nos entrées quasiment d'avant Covid, on est les seuls pour l'instant en Europe et même dans le monde. Je suis assez optimiste pour la suite, puisque ça a ranimé les studios, enfin ils ont envie de retourner vers la salle, enfin Disney, Apple, enfin ils étaient tous à Cannes, on l'a bien vu, ils ont commencé à changer d'optique, donc j'espère que la France va être un effet d'entraînement, mais dans le domaine du patrimoine, on est exceptionnel. Enfin, il n'y a pas de comparaison. Donc, les Américains, les Japonais ou je sais pas, les Chinois, ils comprennent pas ce qu'on veut. Enfin, pourquoi on ressort des films et que ça fait en plus qu'il y a des gens qui vont voir ces films dans les salles. Parce que pour eux, c'est limité à éventuellement des supports numériques de vidéo, quoi. Enfin, pour la maison ou les plateformes. Et voilà. Sauf qu'en France, non. Warner, elle fait pas sa fête sur plateforme, quoi. Elle le fait dans les salles de cinéma.
C'est des sorties événements en fait aux États-Unis. Récemment, Disney avait ressorti le Retour du Jedi. C'était une sortie extrêmement limitée.
C'est trop circonscrit.
Mais qui a cartonné. ils vont voir qu'il y a. Enfin, ils savent très bien qu'il y a un marché pour ça.
Comme le dit Eric, c'est vrai que c'est important de maintenir en fait une sortie régulière de films patrimoine parce que on a. Les salles de cinéma ont effectivement retrouvé à peu près leur niveau avant Covid. Du coup, on peut s'attendre dans les années à venir à ce qu'il y ait en fait pratiquement qu'elle soit prise d'assaut en fait par tous les diffuseurs, par tous les studios qui vont vouloir justement capitaliser dessus pour sortir leurs films. Du coup, c'est important de maintenir en fait cette chaîne historique justement pour montrer qu'il y a un avant tous ces films là et que le cinéma, c'est... Voilà, c'est
ça crée aussi la cinéphilie, hein, c'est l'évidence, parce que bon, en France, il faut faire vivre un réseau de 1200 salles, plus de 1200 salles à Ressé, hein, quand même. C'est énorme, hein. Et je parle pas d'écran, hein, je parle de cinéma, là. Parfois, il y a des 4 écrans, 6 écrans, hein, dans certains cinémas, donc il faut vivre ça, faire vivre ça, et on l'a bien vu, la reprise de la fréquentation, elle est passée par la Ressé et par le patrimoine, c'est-à-dire que l'été où il n'y a rien qui fonctionne du tout, les films de patrimoine, eux, ils fonctionnent, donc le retour en salle, il s'est fait aussi d'abord par les films de patrimoine, ensuite par le cinéma Ressé, et seulement maintenant par des films plus, je dirais, plus grand public. Et on le voit bien, le public, les salles arrêtées ont beaucoup moins souffert du Covid, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'actions, et tout ce qu'on fait ensemble, là, tout ce qu'on met en place, rien que sur le territoire petit territoire, là, d'Arras, Saint-Paul, du Ternois, on voit que ça porte ses fruits, quoi. C'est important.
Rencontre avec les acteurs du cinéma en Hauts-de-France sur Scarpe Sensée.
What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Jane Kelly, Singing in the Rain, un film inoubliable de Stanley Donen et Jane Kelly en 1952. Retrouvez ce classique au Megarama à Arras cet été dans le cadre de l'opération Mon Cinéma d'été. Lors de la conférence de presse, Eric Millot, Nadia Paschetto, Lucie Hureros de l'association Plan Séquence, accompagnée par Guillaume Méral et Benjamin de Neuf Églises, de Popcorn Reborn. Il parle des classiques de la Warner, de la programmation autour de l'animation et du retour des spectateurs en salle.
Chaque mercredi, l'équipe de Scarpe Ciné reçoit les artistes du cinéma. Séquence interview sur Radio Scarpe Sensé.
Pour continuer sur l'histoire de la Warner, d'abord je vais le faire par cinéma, plutôt pour le public adulte là, et senior. Donc au Régency, c'est démarré. Donc lui, là, avec lui, on fait une espèce de petit catalogue où on revisite aussi des grands classiques. Donc c'est démarré par Casablanca, qui est vraiment un symbole de Michael Curtis 1942. Donc le principe est le même à Arras et à Saint-Paul, c'est des films qui tournent 15 jours et qui sont présentés 4 fois. Tous les films sont accompagnés. Alors quand je dis accompagné, hier on s'est bien amusé, on est là dans la salle, on présente le film au public, soit on fait des passes vidéo. Donc on a fait des phases vidéo pour chaque film, sauf Casablanca, c'est pas nous qui l'avons réalisé, mais c'est un critique qui présente l'histoire de la Warner en 4 minutes 30. Ça peut être utile d'ailleurs si vous en avez besoin, ça a été produit par l'AFCAE. Voilà. Donc au Régency à Saint-Paul, c'est donc Casablanca qui démarre là de Michael Curtiz. Ensuite, on aura on va retrouver des films hein, entre les The Artist de Michel Hazanavicius. Sur la route de Madison, là on retrouve Clint Eastwood, version féminine d'ailleurs.
Version romantique.
Oui, mais l'aspect féminin de Clint Eastwood. Bonnie and Clyde, couple mythique, film mythique aussi qui a beaucoup fait évoluer le cinéma américain et notamment qui est l'un des films fondateurs du Nouvel Hollywood. Et on terminera par Autour du minuit de Bertrand Tavernier. Voilà. Qui est une vraie production américaine et Warner. Hein, c'est pas parce que c'était un film français. Voilà pour ce qui est du Régency. Donc là, on essaie plus de choisir des films qui sont un peu emblématiques des périodes. À Arras, on a travaillé sur deux thèmes qu'on mixe, et ce qui fait que dedans, il y a un film qui n'est pas un film Warner. C'est la seule chose un peu étonnante de ce programme, mais oui, il faut bien qu'il y ait une petite particularité. Donc à Arras, on a travaillé sur le thème de la musique et du cinéma. Donc la question de la musique, elle va aller jusqu'au mois de septembre, puisqu'on proposera encore un événement en septembre qui est Play It Again, qui est un autre festival, mais j'en parlerai plus tard, on va tout mélanger. Mais là, c'est vraiment sur Arras, c'est le thème de la musique du cinéma. Donc on va démarrer avec Chantons sous la pluie, ce sera le 5 juillet. Il sera suivi par Autour de minuit, Cinéma Paradiso, c'est ça la... Voilà. Et The Artist. Après, on devait présenter La Nuit américaine de François Truffaut, c'est expliquer le thématique du cinéma, mais il se trouve, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème de droit sur le film. C'était en Quetta Warner, il y a un problème de droit très récent. Bon, ce qui fait que tous ces films, ils ont quand même un lien entre le cinéma et la musique. Superman aussi, qui pour nous, un moyen de rendre aussi hommage à John Williams, c'est Cinéma Paradiso à Ennio Morricone. En sachant que The Artist, c'est aussi la question de l'arrivée de la musique et comment la musique aussi, elle est un langage. Dans le cinéma. Chantons sous la pluie, ça raconte aussi ce passage du muet au parlant et c'est comment un récit peut être fonctionner autour de ces numéros musicaux. Autour du minuit, ça permet d'aborder la question du jazz et Cinéma Paradiso, ben, c'est l'amour du cinéma. Enfin, tout ça, c'est lié à cette idée d'amour du cinéma et c'est vrai que Superman, on y retrouve aussi ça. Moi, j'ai un souvenir de gamin extraordinaire quand je découvre Superman, le générique, la musique de John Williams, c'était vraiment... C'est un moment que j'ai encore en tête, toi. Oui. Donc c'est vraiment lié à cette question d'abord du cinéma.
L'adulte senior, en fait, en complément, il y aura un atelier qui sera pour les seniors, avec le rapport entre la musique, l'émotion et le cinéma. Donc il y aura un atelier qui sera proposé au sein, enfin là, j'y travaille, donc au sein des pannes, etc. Pour que voilà, les personnes bien âgées, elles auront des images et voir en effet la relation entre cette musique. Et après, à la fin de l'atelier, elles pourront manipuler des instruments, donc vraiment on travaille sur tout ça.
Voilà. Donc ça sera à Arras et Saint-Paul.
Ce sera à Arras et Saint-Paul pour les ateliers. C'est un atelier qui sera proposé, créé en fait pour cet pour événement, l'occasion. Pour nous, pour l'occasion, avec Nathanaël Penu. Voilà. Et après, donc je passe au. Donc par rapport au catalogue Warner, on a choisi Le Géant de Fer, qui est un très beau film d'animation, qui n'est absolument pas connu par la nouvelle génération. Donc il fallait absolument y remédier, d'où la proposition. Et puis surtout, c'est vraiment l'occasion, ben, déjà qu'il découvre cette histoire magnifique. Et il y a plein de choses dans ce film sur la science-fiction, sur le rapport entre un géant et puis la poésie qu'il peut y avoir entre deux personnages de tailles différentes, comment on le travaille au cinéma. Donc voilà, donc du coup, ce sera vraiment une séance qui sera avec moi-même en médiation en salle. Et donc en général, je montre des images avant, après, des pistes pour qu'ils puissent bien comprendre et bien observer avant le film. Et puis après, on en reparle et on revoit des extraits, on analyse un petit peu tout ça. Et puis l'objectif après de leur donner plein de pistes pour qu'après ils continuent à regarder plein d'autres films. Donc s'ils partent en disant ah, c'était super, maintenant j'ai envie de voir ça, j'estime avoir gagné ma petite journée. Donc voilà, donc, ça c'est pour Catalogue Warner. Mais en plus, on voulait proposer d'autres films et tout au long de l'été pour les plus jeunes. Donc il y aura au Megarama toutes les semaines des films pour les plus jeunes et des séances animé également. Alors j'ai amené mes petites images du coup. travaille avec les plus jeunes, donc du coup j'ai des images. Donc mes grandes vacances de cow-boy et indien, qui est voilà, vraiment une petite merveille. Alors hop, donc ce sont en fait deux Belges qui ont on les a reçus deux fois, Stéphane Osier et Vincent Patard, qui là nous proposent encore de nouvelles histoires extraordinaires, donc qui part donc sur le titre au départ en effet de cow-boy indien qui souhaite partir en vacances, mais ils ont loupé leur examen de fin d'année scolaire. Du coup, il y a un gros problème, ils peuvent pas partir en vacances. Donc ils créent une machine qui voyage dans le temps à partir de leur machine à laver. Et donc voilà, forcément ils vont revivre la même scène éternellement et ça va partir vraiment dans tous les sens. Donc c'est vraiment encore une fois une véritable surprise au niveau de leur scénario, inracontable, enfin voilà, ça se vit. Et donc c'est vraiment plus de 6 ans, mais bon, les plus jeunes en général ils arrivent tout à fait, ils adorent parce que forcément c'est du stop motion, c'est des jouets, donc c'est un univers qu'ils aiment beaucoup. Et donc là, ce sera l'occasion au niveau de faire une animation en salle aussi, pour expliquer ce qu'est le stop motion, pourquoi, les références qu'il y a dans le film. Parce que forcément, il va y avoir du retour vers le futur, plein de choses au niveau du contenu. Et ça, c'est que limite les 5 premières minutes du film. Après, le reste, ça part 10 000 directions. Voilà. Donc, et ce sera surtout l'occasion qu'ils comprennent comment on fait du stop motion, leur montrer qu'avec un petit téléphone, on peut aussi faire du stop motion à la maison. Donc, c'est pareil, si à la fin, et ben, ils ont envie de faire un petit film à la maison, c'est pareil, j'ai coché ma case, j'ai gagné. Voilà. Donc, c'est pour découvrir tout ça. Donc là, c'est pareil, il y aura donc des événements donc, sur Arras et Saint-Paul aussi au niveau des dates, peut-être on les donnera tout à l'heure. Voilà. Et puis au niveau des films, plus dans la fin de l'été, on aura des avant-premières. Attends, je montre ma petite Nina. Donc là, on est en train de voir avec la production pour faire venir le réalisateur. Donc Nina et le secret du hérisson, qui est un très joli film. Donc ça, ce sera fin août. C'est un film qui est... plus une sorte d'enquête de jeunes enfants qui, voilà, il y a le papa qui est au chômage et il y a une intrigue dans l'usine qui est restée abandonnée. Et l'histoire du hérisson, c'est que cette petite fille, en fait, elle a, depuis qu'elle est toute petite, son père, qui est la voix de Guillaume Canet, son père lui dessine un petit hérisson, fait des petites histoires avec des hérissons. Et donc cet hérisson va apporter des solutions à tout ça. Voilà. Et c'est un très joli film et c'est vrai que c'est pour les plus de 6 ans, mais on peut aller au-delà, enfin ça va à 12 ans, on peut tout à fait apprécier le film également. Et sur l'ensemble des 3 films avec animation, voilà. Mais même en tant qu'adulte, en fait, on s'en met pas sur les 3. Donc c'est aussi des programmes familiaux, voilà, on peut venir avec tout le monde sur ces séances-là. Voilà. Et donc en complément, pour le public plus jeune, il y aura par rapport à la musique, par rapport à tout ça, c'est vrai que l'année dernière, dans cette même occasion, enfin même, on avait fait un film, et à la fin j'avais montré les bruitages, et il y a encore beaucoup de personnes qui ne se posent pas du tout la question comment sont faits les bruitages, comment sont faits les doublages, tout ça. Donc du coup, l'atelier portera sur ça. Donc l'atelier portera sur donc le fait de faire les bruitages. Et vu que c'est à partir de 6 ans, faire le doublage, ça reste un peu compliqué, parce que forcément au niveau de la lecture, ça va très très vite. Donc après, ce sera plus à partir de 10 ans, il va proposer le doublage. Donc il va reprendre plein de séquences de Jacques Tati, des choses comme ça. Il va retravailler tous les sons et le doublage, et ça plaît énormément. Et il y a une vraie, compréhension de tout ce travail un peu.
Thank you.
pense que les cinémas et les gens qui s'occupaient de la diffusion en France, ils ont dû faire trois fois plus de travail et d'animation qu'ils en faisaient auparavant pour ramener le public dans les salles. C'est passé par là, y compris dans les... Et tout le monde y a compris, enfin, c'est explique que les tournées se sont multipliées, les acteurs, les réalisateurs s'y sont engagés aussi, et ils ont compris que ça passait par là. Et ça, on l'a senti à travers le festival aussi, on l'a senti dès 2021, en fait, qu'il y avait cette envie de retrouver la salle. Et je crois que c'est important, je crois qu'aujourd'hui, il y a un public qui a envie de vivre l'expérience du cinéma autrement que par une simple projection de film, mais que ça redonne la dimension de vie sociale, enfin, quand on voit Cinéma Paradiso et ce que c'était le cinéma dans ces années 50, espèce de lieu de vie. Aujourd'hui, on recherche encore à nouveau, et il y a peut-être une fracture très forte qui se fait entre le film de consommation de base, où le spectateur, le dit samedi soir, ou voilà, va voir un grand spectacle pour se distraire, et puis tout un public qui recherche au contraire à aller plus loin, à ce que ça soit un moment de partage, de convivialité, et c'est là que le prescripteur est aussi important. Quand je dis prescripteur, c'est celui qui transmet, c'est pour ça que toutes ces séances elles sont accompagnées, parce que effectivement c'est ça qui fera toujours la différence entre un cinéma et une plateforme. Parce que vous êtes sur une plateforme, il n'y a pratiquement pas de prescripteurs. Il y a des plateformes j'exclus certaines, hein. Il y en a où ça existe, mais elles sont pas de notoriété. Si je pense à la Cinéthèque, par exemple, où c'est les réalisateurs eux-mêmes qui sont prescripteurs. Ça représente pas une masse non plus de téléchargements. Enfin, les gens vont pas de... Mais ce public, il a besoin qu'on le guide et qu'on l'oriente un petit peu et qu'on lui dise, mais il faut voir le film comme ça. Enfin, voilà. Si on voit The Artist, il y a plein de choses à raconter autour de The Artist, sur l'histoire du cinéma, sur les styles. Enfin, voilà. On peut aimer ou pas aimer le film, mais le film, il est hyper riche et il va apporter énormément de choses et peut-être donner envie de voir des autres films. C'est pour ça qu'on a créé des passerelles aussi entre J'entends sous la pluie et The Artist, parce que The Artist fait telle référence à J'entends sous la pluie, donc autant revoir voir les deux. C'est ça qui peut être amusant. Et ça, c'est... Je crois que il y a vraiment un public qui, il y a vraiment une fracture forte, mais il y a vraiment ce public qui a besoin qu'il se passe quelque chose dans la salle de cinéma, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, et c'est ce qui fait le succès des festivals. En fait, la salle est en train de se faire rejoindre parce qu'on a compris que le festival il fonctionnait bien parce qu'il y avait cette transmission, il y avait cette prescription aussi. Tous les gens qui viennent à un festival, ils savent qu'on a choisi le film pour eux. Donc ils savent qu'il y aura de la qualité, même si vous n'avez pas un film. J'ai jamais entendu personne qui me dise mais pourquoi s'il fait là ce film. Bon voilà, il y aura une qualité. Après bien sûr il faut de la diversité, ces choses-là, mais ça c'est important. Et donc le public c'est et dans la salle on doit retrouver. Je crois que la salle va s'en sortir, enfin du moins un type de salle va s'en sortir grâce à ça, à ce plaisir partagé, ce qui fait la différence entre regarder tout seul son film chez soi et puis le vivre avec plein de gens. Quoi.
C'est ce que tu disais, c'est vrai que c'était déjà le cas avant le Covid, les choses se sont accélérées, c'est que la salle n'est plus une habitude. Les gens ont de plus en plus de mal à aller au cinéma par la simple habitude d'aller au cinéma, comme ça pouvait être le cas il y a encore, disons, 15 ans, 20 ans, en fait.
Bah oui, le spectateur qui y allait tous les dimanches à 17h,
là, tous les samedis soir,
je ne sais pas s'il y a encore des habitudes, mais un peu.
C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut des films, il faut des programmations qui correspondent à des exceptions, qui correspondent à des événements pour lesquels, en fait, il faut se déplacer et faire une place dans son emploi du temps où ce sera ça et pas ceci, ni cela, quoi. Ça sera ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour regarder des films par habitude, vous avez les plateformes. Et c'est la place, en fait, je pense, qui est en train de se dessiner, c'est que les films qu'on va voir par habitude, on peut les voir sur des plateformes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent aller au cinéma et il y a une appétence pour la salle. On l'a vu avec le Racine Festival, c'est pas quelque chose qui s'est tari. Par contre, il y a un besoin de créer, voilà quoi, ce rendez-vous, cet événement dans lequel il faut aller, on a envie d'aller, parce que ça correspond à quelque chose de plus développé, de plus élevé, un peu pompeux, que l'on pense tous les publics ont envie de vivre ensemble au cinéma. Quoi. Et donc en fait, c'est vrai que l'initiative que l'on partage cet été, elle correspond aussi un petit peu, elle correspond aussi à ça, quoi. Vouloir faire de la salle. Hein.
Alors après, plan séquence, on va encore en projeter d'autres, mais après, il n'y a pas qu'eux qui ont des catalogues, hein, donc il y a pas mal de rééditions quand même, on a envie de faire. Alors nous, à travers nos rendez-vous dans l'année, bah, eux, ils vont continuer. Nous, on a nos rendez-vous ciné-élite à Arras, la classe ciné à Arras aussi, mes films de chevet à Lille. On lance un rendez-vous à Ronc à la rentrée, avec des classiques aussi, une espèce de ciné-club. Il y a le ciné-club à Saint-Paul-sur-Ternoise au Regency qui est un beau rendez-vous, je trouve, qui fonctionne bien. Pas encore trouvé tout le public, mais en tout cas c'est quelque chose de, je trouve, le procédé qui fonctionne bien. Enfin voilà, il y a tous ces rendez-vous, donc on a des occasions à travers tous ces rendez-vous, bah, de continuer à passer à la fois des films Warner puis les films des autres. Hein, parce que, je pense qu'il y a des indépendants qui font aussi un gros travail de réédition, parfois très courageux. Par exemple là, c'est mercredi, il y a un distributeur qui sort un ou deux films par an. Là, il a ressorti un film de casse, un film de cambriolage anglais, qui s'appelle 3 milliards d'un coup. Je lui ai dit, t'es courageux de faire un truc pareil, parce que le film est super, c'est Peter Yates, c'est celui qui va faire Bullitt, c'est-à-dire c'est le film qui va lui ouvrir la porte d'Hollywood. Et le film, il est super, mais personne ne le connaît. Et ce gars, il va partout sur le terrain pour montrer son film. Voilà, et donc il y a des gens comme ça qui sont à la fois très pro et très courageux, en même temps et très, très passionnés. Et j'en connais, enfin, il y en a plein, comme ça, qui sortent des films en France. Alors, récemment, il y a aussi des catalogues plus construits, hein. Carlotta Film, par exemple, c'est quand même une référence. Mais bon, par exemple, quand ils font redécouvrir une réalisatrice japonaise comme Tanaka, ils ont fait 40 000 entrées en France. C'est pas rien, quoi. Personne connaissait cette réalisatrice.
C'est formidable.
Ah oui, les films sont magiques, mais personne connaissait. Non, enfin, non. Voilà, il y a des gens qui font un travail comme ça qui est assez phénoménal, quoi. La réédition de Rashomon de Kurosawa, c'est presque 20 000 entrées en France, quoi. Voilà. Après, c'est pas tous les jours le bonheur comme ça. Hein. Il y a aussi des difficultés, il faut le dire. C'est des difficultés à exister. Ils ont du mal à trouver leur salle parfois, et il y a une frilosité. Mais bon, là, on travaille sur la réédition de Virgin Suicide. Je pense que je vous le passerai à l'occasion, parce que je sais que c'est un film qui vous intéresse beaucoup, et nous aussi d'ailleurs. Et ça, je parle en national. Hein. Et là, nous, je mets en place des ateliers. Je vois que j'ai déjà deux associations de territoire en Bourgogne, et je sais plus où c'est l'autre. Je ne sais plus dans quelle région, ils sont déjà motivés pour accueillir ça, et puis faire des ateliers sur la musique et la musique dans les films de Sofia Coppola. Enfin, il y a tout ce travail qui se prend en place. Donc il y a vraiment une envie un peu partout d'aller vers le public, leur montrer des choses. Enfin, je crois. C'est plutôt encourageant. Et donc oui, on a envie de montrer tout. Après, il y en a qui ont déjà montré, donc ceux-là, on peut les écarter.
C'est vrai que devant le côté comme ça, je me sens comme un gamin devant un énorme vidéoclub. Tu sais, t'as envie de te prendre toutes les cassettes, et puis là, il y a tes parents qui font « Non, ça sera deux pas plus. On va choisir. Hein. » Après, oui, il faut, comme dit Eric, tous les films ne sont pas numérisés, donc il y a encore pas mal d'œuvres qu'on guette, hein, jour après jour, dans l'éventualité d'une annonce qui nous fera plaisir. Mais effectivement, le but, c'est de faire quelque chose de cohérent, qui nous fasse plaisir à nous, mais aussi qui fasse plaisir à tout le monde, et qui soit surtout qui ne soit pas fermé, qui puisse ouvrir des portes à la fois à ceux qui ne les ont pas vus, à ceux qui les ont déjà vus. Et voilà.
Après, moi, je fais souvent des sondages dans la salle. Enfin, même sur des films très connus, j'ai 25% des doigts qui se lèvent, hein, quand c'est pas nous. Ouais. Quand je dis que très connu, c'est bon, Le Parrain, il y avait la moitié de la salle qui l'avait déjà vu, mais la moitié seulement sur 200 personnes, c'est comme il y en a 100 qui l'ont pas vu. Et après, quand on demande qui est-ce qui l'a vu en salle, il n'y avait plus que 20% qui l'avaient vu en salle, les autres l'avaient vu en vidéo. Donc le travail, je parle du Parrain, hein, je ne parle pas des autres films. Donc il y a vraiment, on croit que les films sont connus, mais ils ne sont pas connus. Parce qu'aujourd'hui, c'est où vous voyez ces films-là, en fait, si vous ne cherchez pas. Il y a eu l'époque aussi des ciné-clubs à la télé, des prime time de diffusion, mais il n'y a plus ça. Les émissions comme Eddie Mitchell qui a créé la cinéphilie en France, hein, je sais plus comment c'était la dernière séance, bah, tout ça n'existe plus. Hein. Donc il faut bien un peu les salles compensent. Les salles compensent.
C'est comme ça qu'on a. C'est créé.
Mais je crois que c'est la salle qui compense.
Des terriers au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous sur Scarpe Sensée.
cultissime musique du film The Artist de Michel Hazanavicius en 2011 avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Un film qui fait partie de la programmation Mon Cinéma d'été au Mégarama à Arras et au Régency à Saint-Paul. Vous pouvez redécouvrir ou découvrir Superman de Richard Donner, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, Casablanca de Michael Curtis, Sur la route de Madison de Clint Eastwood ou encore Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Tarif, horaire, cinéma, tout est à retrouver sur le Facebook de Plan Séquence.
Coup de projo sur le cinéma Hauts-de-France.
Merci à Eric Millot, Nadia Paschetto, Lucie Ureros de Plan Séquence, à Guillaume Méral, Benjamin de Neuf Églises de Popcorn Reborn. On vous souhaite un bon été, tout comme à Carole. Carole qu'on retrouvera en ma compagnie la semaine prochaine dans les studios de Radio Scarp Sensé pour la dernière de la saison. Et on va fêter aussi les 13 ans de Scarp Ciné. Alors rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, allez au cinéma.
Scarp Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action !